Merci Christophe pour ce que tu nous as partagé dans ce temps de louange et d'adoration. Et il y a beaucoup de choses que tu as partagées, j'ai presque plus rien à dire. Alors, mais en tout cas, je retiens deux champs. On a parlé de la mer, de l'océan, du phare. Et vous voyez que j'ai choisi pour commencer cette image, cette photo d'un sous-marin. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de visiter l'intérieur, voire même de partir dans un sous-marin qui bougeait, qui se déplaçait, qui était militaire? Ouais. Ok. Ah oui, excellent. Excellent. On pourrait dire que le sous-marin est aussi un médiateur, est en quelque sorte un médiateur. C'est-à-dire qu'il est un intermédiaire pour permettre à l'homme d'explorer les profondeurs de l'océan, et cela sans mourir. On peut bien prendre ses palmes, son masque et son tuba et faire de la plongée, mais on va arriver à un moment donné, on va être limité parce que plus on descend, plus la pression augmente et on a une limite qu'on ne peut pas franchir, mais qu'un sous-marin peut franchir et il peut nous amener dans des profondeurs assez importantes. Il y a un peu moins d'un an que cela, en juin 2023, vous avez très certainement entendu parler de l'affaire du Titan. Ce drame qui a eu lieu avec ces 5 personnes à bord de ce petit sous-marin qui partait explorer le Titanic. Et le sous-marin a implosé, causant la mort immédiate et radicale de ces 5 passagers. On peut dire que ce sous-marin-là n'était pas un médiateur très fiable. La Bible, et cela a été rappelé ce matin, présente Jésus comme médiateur entre l'homme et Dieu. La question qu'on peut se poser, peut-être que certains d'entre vous se posent, c'est: est-ce que Jésus est un médiateur fiable? Est-ce que Jésus est vraiment qualifié pour nous permettre d'entrer en relation avec ce Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est pur, exempt de tout mal, et cela sans mourir? Alors on va replonger ensemble dans la lettre aux Hébreux. Et l'objectif de l'auteur dans cette lettre, c'est d'encourager ses lecteurs, qui étaient essentiellement des personnes d'arrière-plan juif qui s'étaient converties au christianisme. Et il les encourage à persévérer dans la foi en Jésus-Christ comme seul intermédiaire, comme seul médiateur possible entre Dieu et les hommes. Alors on avait commencé ce parcours il y a 3 ans et on avait parcouru les 3 premiers chapitres et le début du 4e chapitre. Et on avait vu que l'auteur dépeint Jésus-Christ comme celui qui est supérieur à tout le système de l'Ancienne Alliance. Parce que ce système ne faisait que préparer, il n'était que le poteau indicateur de la venue de Jésus-Christ. Christ, nous dit cet auteur dans les 3 premiers chapitres de cette lettre, était et supérieur aux prophètes. Christ est supérieur aux anges, Christ est supérieur à Moïse, Christ est supérieur à Josué. Et on va donc plonger dans cette lettre aux Hébreux, continuer, et qui nous amènera jusqu'à juin pour voir toute la suite et la fin de cette lettre. Je vous invite à prendre le texte. Donc dans Hébreux chapitre 4, on va commencer au verset 14 et on va aller jusqu'au chapitre 5, verset 10. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux de son peuple, que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et, parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. C'est jusqu'ici là. Lecture de la parole de Dieu. Sous l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus-Christ sur terre, Dieu avait instauré des grands prêtres, des souverains sacrificateurs, pour servir d'intermédiaires, de médiateurs entre les hommes et lui. Alors ne pouvait pas devenir grand prêtre qui le voulait. Quand on regarde le chapitre 5, le début du chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, on voit que cela devait être un homme. Cela devait être un homme, verset 1, qui avait les mêmes faiblesses que ses pères et qui pouvait donc les comprendre et compatir, verset 2. Il représentait auprès de Dieu en offrant des sacrifices pour leurs péchés et pour les siens, verset 3. Et puis, il représentait Dieu aux yeux du peuple. C'était un homme choisi par Dieu qui était un descendant de la lignée d'Aaron. Alors quand l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit à ses destinataires, on est aux alentours de 60 après Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem n'est pas encore détruit. Et les premiers destinataires de cette lettre, ces premiers chrétiens d'origine juive, subissaient une extrême pression de la part des personnes d'origine juive pour rester, voire pour retourner aux pratiques du judaïsme, aux pratiques de l'ancienne alliance. Et on peut imaginer les paroles de ces personnes qui leur mettaient la pression et de dire des choses comme « Allez-vous vraiment abandonner les sacrifices offerts par les sacrificateurs ?» Mais s'il n'y a plus de grands prêtres et de sacrifices, comment est-ce que vous allez bénéficier du grand pardon reçu chaque année ? Et puis, qui est-ce qui est légitime ? Qui est choisi par Dieu pour vous représenter devant lui? Comment vous qui croyez en Jésus pouvez être pardonné de vos péchés si personne n'offre de sacrifice et n'intercède pour vous? Comment cette nouvelle alliance pourrait-elle être supérieure à l'ancienne s'il n'y a plus de grands prêtres? Voilà peut-être des questions auxquelles ces personnes faisaient face. Et l'auteur va les encourager. Jésus, le Fils de Dieu, est notre souverain grand prêtre, dit-il. Le terme grec pour dire souverain, c'est le terme qui dit méga. Jésus est notre méga grand prêtre, dit-il, notre méga médiateur. Jésus est en quelque sorte notre titan pour nous représenter devant Dieu. Il est totalement fiable, parfaitement qualifié pour nous représenter devant lui. Il coche tous les critères des sacrificateurs de l'ancienne alliance et même plus. Et il va mentionner 4 raisons qu'on va parcourir. Et je terminerai par quelques applications pour nous aujourd'hui. Première raison, dit-il, Jésus a traversé le ciel. Chapitre 4, verset 14. En fait, c'est une référence à l'ancienne alliance où une fois par an seulement, le jour du grand pardon, vous avez peut-être entendu de Yom Kippour, seul le grand prêtre prenait le sang d'un animal qui avait été sacrifié pour les péchés et il avançait progressivement, que ce soit dans le tabernacle et puis ensuite dans le temple. Là, j'ai pris une image du tabernacle, mais il avançait dans l'enceinte du temple où il avait offert le sacrifice avec le sang. Il rentrait dans la tente, dans cet espace-là qui s'appelle le lieu saint. Et une seule fois par an, il accédait dans cet espace qui est derrière ce rideau du temple, qui est le lieu très saint, qui était le lieu où Dieu était présent. Et il entrait donc dans ce lieu de manière très brève, très courte, pour déverser le sang sur l'arche de l'Alliance, sur le coffre, le couvercle, qui était le propitiatoire. Et dès qu'il avait répandu ce sang, il quittait les lieux et il ne rentrerait dans ce lieu très saint, derrière le voile, que l'année prochaine, et de manière tout aussi rapide et brève. En Jésus, il y a eu un bug. En Jésus, le Fils de Dieu, nous n'avons pas un grand prêtre qui a traversé le tabernacle, le temple terrestre, mais nous dit l'auteur, qui a traversé le ciel. Le ciel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Là où se trouve le véritable tabernacle de Dieu, dont celui de Moïse sur terre, où le temple de Salomon n'était qu'une préfiguration. Depuis son ascension, depuis que Jésus est remonté au ciel, Jésus se tient non pas courtement et une fois par an dans la présence de son Père, mais continuellement, éternellement, dans la présence même de Dieu. Jésus, oui, est bien le méga médiateur. Deuxième raison, nous dit l'auteur, Jésus a été tenté sans jamais pécher. Le grand prêtre, sous l'ancienne alliance, devait être un homme pour qu'il puisse être solidaire des hommes qu'il représentait devant Dieu. Étant lui-même un homme, il connaissait, il expérimentait les mêmes faiblesses que ses pères. Et il comprenait très bien ce qu'il vivait. Alors pour que Dieu puisse nous comprendre, nous créatures si faibles, éprouver ce que nous éprouvons, expérimenter ce que nous expérimentons, être solidaire et avoir compassion, il devait se faire homme. Verset 14, Jésus, fils de Dieu, n'est pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus, c'est le nom que Christ a reçu lors de son incarnation, de sa venue sur terre. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Il a marché en quelque sorte dans nos baskets, dans nos sandales. Il a connu les mêmes difficultés, les mêmes tentations au cœur de l'épreuve, mais, nous rappelle l'auteur, sans jamais pécher. Sinon, quelque part, comment pourrions-nous lui faire confiance ? D'ailleurs, la question se pose, et elle est celle-ci, est-ce que Jésus était capable de pécher ? Alors certains pensent que oui, une majorité pense que non, et je me range donc du côté de ceux qui pensent que non, tout simplement à cause de sa divinité, parce que Jésus était homme et Jésus était Dieu, et Dieu ne peut pas pécher. Mais justement, soulèvent certains commentateurs, là où nous sommes si faibles face à la tentation et où nous succombons si facilement, Jésus, parce que lui ne pouvait pas pécher, a enduré ses tentations d'une manière extrême et beaucoup plus intense que nous. Il en a expérimenté toute la force. À plus forte raison, Jésus est qualifié pour être ce grand prêtre capable de nous comprendre et de compatir à nos faiblesses. Troisième raison, nous dit l'auteur, Jésus a été consacré par Dieu lui-même. On l'a dit, personne ne pouvait s'autoproclamer grand prêtre. Le grand prêtre était choisi parmi la tribu de Lévi. Dieu avait choisi à un moment donné Aaron et n'était grand prêtre qu'Aaron et des personnes qui seraient issues de sa descendance pour exercer cette fonction. Alors là, c'est un argument pour les contestataires. Qu'en est-il de Jésus qui n'était pas un descendant d'Aaron ? L'auteur nous dit « Jésus ne s'est pas non plus attribué l'honneur de cette charge », versets 4 et 5. Il a bien reçu cette fonction de Dieu et il le démontre au travers de deux citations de l'Ancien Testament qui sont tirées de deux psaumes qui concernaient ce Messie qui était promis et qui devait venir en parlant de Jésus-Christ. Le psaume 2 souligne que ce Messie serait roi, consacré par Dieu lui-même. Et l'auteur fait aussi appel au psaume 110, qui affirme que ce Messie roi à venir sera aussi prêtre, mais d'une autre lignée que celle d'Aaron, la lignée de Melchisédek. Alors c'est un personnage un petit peu mystérieux et on ne va pas trop s'y arrêter ce matin, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du livre. Mais retenons que cet homme qui apparaît dans le livre de la Genèse au chapitre 14 était le seul qu'on connaisse qui était prêtre, qui cumulait la fonction de prêtre et de roi, parce qu'il était roi de Salem, qui était très probablement Jérusalem. Et là, on le voit, un grand prêtre donc ne pouvait pas être roi et vice-versa. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les rois qui se sont essayés à exercer les fonctions de grand prêtre ont été sévèrement punis par Dieu. Non seulement Jésus coche ce critère d'être choisi par Dieu, mais en tant que roi-prêtre, il était bien supérieur au simple grand prêtre aaronique. Quatrième raison, et dernière, Jésus a été un modèle d'obéissance dans la souffrance. Ces derniers versets de ce passage nous replongent dans les dernières heures de la vie de Jésus, au jardin de Gethsémané jusqu'à la croix, où Jésus est sur le point de connaître l'abandon, l'injustice, des souffrances physiques et spirituelles abominables, en portant les péchés du monde, en faisant face à la mort. Dans ce jardin, effectivement, Jésus a présenté avec de grands cris et avec des larmes des prières et des supplications, chapitre 5, verset 7, à Dieu son Père. Quand l'auteur mentionne que Jésus a présenté, il reprend le même terme qui était présent au verset 1, qui vient de ce vocabulaire sacerdotal de grand prêtre. Jésus était dans la même situation que le grand prêtre juif qui présentait des offrandes et des sacrifices pour les péchés, qui intercédait pour ses pères. Mais là, Jésus va être à la fois le sacrifice, mais aussi le grand prêtre qui l'offre. Ce que Jésus demandait à Dieu, c'était de ne pas rester enfermé dans la mort. Et il a été exaucé, puisque 3 jours plus tard, il est ressuscité, ce qui valide son sacrifice. Et cela en réponse à sa piété, c'est-à-dire à sa parfaite soumission et à son obéissance apprise par la souffrance. Chapitre 5, verset 8. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Surprenant, n'est-ce pas? On peut se poser cette question, vraiment, est-ce que Jésus a dû apprendre l'obéissance? Est-ce qu'il était désobéissant? Non, on le sait, il était parfait, on l'a dit, sans péché. Mais il a appris dans le sens où en s'incarnant, il s'y est soumis et elle a été éprouvée et validée alors que la souffrance battait son plein, alors qu'elle était toujours plus intense, toujours plus terrible. Et là, on a un contraste qui nous vient peut-être en tête. Alors que le premier Adam, qui était dans un jardin devant un arbre, a désobéi en mettant sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Jésus nous est présenté ici comme ce second Adam, lui aussi dans un jardin, devant un arbre, mais qui a obéi en plaçant la volonté de son Père au-dessus de la sienne. Et l'auteur arrive comme dans un bouquet final. Oui, Jésus-Christ, l'homme Dieu, est parfaitement qualifié, verset 9, pour être notre grand prêtre, le parfait médiateur entre Dieu et nous. Il est l'auteur d'un grand salut. À qui est destiné ce salut ? Termine-t-il. Tous ceux qui lui obéissent, verset 9. Tous ceux qui lui obéissent. Alors, sachant que nous ne serons jamais sauvés par nos œuvres, sinon il n'y aurait pas besoin de sacrifice ni de sacrificateur, et sachant aussi que dans le livre aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, foi et obéissance sont utilisées de manière quasi synonyme. On le voit au chapitre 4, verset 2 à 3, au chapitre 4, verset 6. Ce salut est donc pour tous ceux qui répondent avec une foi obéissante. J'aimerais terminer et nous laisser 3 encouragements directs pris de ce texte que l'auteur nous transmet en live, j'ai envie de dire. Parce qu'en Jésus, nous avons un parfait grand prêtre. Restons attachés à la foi que nous professons. Cette foi en Jésus-Christ, notre représentant parfait. Par ailleurs, l'apôtre Paul affirme « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ » dans 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 5. On vit dans une société pluraliste, comprenez par là, où nous pouvons choisir parmi une grande quantité de possibilités. Et si vous n'êtes pas convaincu par cette affirmation, il suffit de se rendre dans les magasins et de voir les rayons remplis de tout un tas de mayonnaise, de cornichons différents. On peut aller sur Internet et voir aussi la grande quantité de produits. Pour son mariage, tous les prestataires qui existent, toutes les salles, on a l'embarras du choix. Quand on doit choisir une voiture, tout plein de critères, de possibilités. Quand on doit choisir son prestataire pour l'électricité, il y a de l'offre et là qui répond largement à la demande. Dans cette société pluraliste, qu'en est-il concernant notre relation à Dieu? L'auteur nous dit, Jésus a l'exclusivité. Il n'y a aucun autre moyen d'être en relation avec Dieu que celui de la foi en Jésus-Christ. Toute autre personne, aussi importante, aussi exemplaire, aussi influente ou connue soit-elle, toute organisation, tout rituel, tout objet, tout lieu qui prétendrait faire office d'intermédiaire entre l'homme et Dieu est un affront à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et laisserait sous-entendre qu'elle est imparfaite, voire inutile. Je n'ai pas les ressources en moi-même pour m'élever vers Dieu. J'espère que je ne vais pas vous décevoir en disant cela, mais Henri et moi-même ne sommes pas des intermédiaires entre Dieu et vous. Nous sommes là, Henri et moi, avec vous, ensemble, pour nous montrer les uns aux autres et pour montrer au monde qui nous entoure Jésus-Christ, le méga grand prêtre, l'intermédiaire parfait entre Dieu et les hommes. Deuxième implication, nous dit l'auteur, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Quelqu'un a dit, le trône sans la grâce serait écrasant. La grâce sans le trône serait impuissante. Je le redis. Le trône sans la grâce serait écrasant. La grâce sans le trône serait impuissante. Le trône du jugement de Dieu devient un trône de grâce pour ceux qui font confiance à Jésus, le grand médiateur. Nous pouvons nous approcher, dit l'auteur, avec assurance, parce que Dieu ne nous y reçoit pas selon nos mérites et heureusement, mais il nous reçoit avec grâce, c'est-à-dire selon ce que nous ne méritons pas. Ce privilège d'accéder à la présence de Dieu est énorme. Là où il était autrefois réservé à ces quelques grands prêtres, une fois par an et de manière si courte, il est maintenant étendu à tous les croyants grâce à Christ. Enfin, je termine. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Quelles sont vos craintes ? On l'a chanté à plusieurs reprises ce matin. Approchez-vous avec assurance pour obtenir compassion. Quelles sont les tentations qui vous assaillent jour après jour ? Approchez-vous avec assurance pour être secouru. Quelles sont les épreuves que vous traversez, que vous endurez depuis peu ou depuis peut-être très longtemps ? Approchez-vous avec assurance pour recevoir compassion. Quels sont les échecs, les chutes, les péchés de cette semaine et peut-être même de ce matin encore avant de venir au culte ? Approchez-vous avec assurance pour recevoir la grâce. Pensez-vous encore ou des fois que Dieu soit trop distant, trop lointain pour comprendre vos épreuves, vos souffrances, vos tentations. Approchez-vous avec assurance, parce que Jésus, notre grand prêtre, comprend et compatit à ce que vous vivez. Il le sait, il le connaît. Il sait ce qu'est la souffrance parce qu'il l'a endurée à l'extrême. Il sait ce que c'est que faire face à la mort, parce qu'il l'a traversé. Il sait ce que c'est que d'être trompé et trahi, d'être abandonné, d'être moqué. Il sait ce que c'est que d'être abusé. Oui. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Je prie. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire un grand merci encore ce matin pour ta parole, pour ce rappel que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône et y recevoir la grâce parce que tu es ce parfait médiateur entre l'homme et Dieu. Tu es l'unique, le seul, il n'y en a pas d'autre. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que tu as tout affronté sans jamais défaillir. Et tu es ce Dieu qui n'est pas un Dieu distant, mais qui nous connaît. Tu connais nos joies, tu connais nos réjouissances, mais tu connais aussi bien sûr tout ce qui est intérieur, à l'intérieur de nous, nos tentations, nos épreuves, nos circonstances qui sont parfois si douloureuses. Il est bon de savoir que tu es là, que tu les vois et que tu sais ce par quoi on traverse, bien mieux que quiconque. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu te tiens assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Merci parce que c'est un rappel que tu as tout accompli. Et que, Seigneur, on n'a plus rien à craindre. Seigneur, je te prie que si ce matin, quelqu'un est à la porte du royaume, qu'il puisse répondre à cette invitation que tu lui fais, de saisir par la foi cette vérité de qui tu es et de ce que tu as accompli pour lui ou pour elle. Que personne ne se prive. Et Seigneur, que cela soit un encouragement pour nous qui marchons peut-être depuis un certain temps avec toi, pour nous rappeler qu'on t'appartient, que nos vies sont entre tes mains, elles sont en sécurité, parce que tu te tiens à la droite du Père, dans le lieu de sa présence, et tu y es pour l'éternité. Et un jour, Seigneur, tu vas venir nous chercher, et on va vivre, grâce à Jésus-Christ, ce médiateur parfait, dans cette présence éternelle du Père. Alors que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.